Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez l'onde curieuse et conteuse de ce jeudi 22 janvier. Aujourd'hui, on se raconte des histoires de lutins et de revenants, de dames blanches et de loups-garous, collés serrés les uns contre les autres autour d'un feu, pourquoi pas. Lors d'une veillade, ces veillées d'hiver que l'on passait jadis en Ardèche ou sur le plateau. Jadis, pas complètement. Samedi, la bibliothèque de Genestel, qui fait partie du réseau des bibliothèques et médiathèques du bassin d'Aubenas, ressuscite pour nous et pour les nuits de la lecture les fées noires et autres fantômes. On en parle dans un instant avec Patrice Ray, créateur du musée des croyances populaires à Monastier-sur-Gazeille, qui sera là par téléphone, et Claudine Gindreau, responsable de la bibliothèque de Genestel, qui est avec nous, comme Sylvain. Salut Sylvain.
Salut, salut.
Mais tout de suite, bien sûr, c'est l'agenda. Et bien dans cet agenda, place aux événements qui documentent et alimentent nos récits à venir. Alors peut-être Patrice, ça tendait l'oreille, tend l'oreille, ça peut peut-être nourrir certains contes et légendes. D'abord dans le cadre des Nuits de la Lecture, la médiathèque d'Aubenas fait un pas de côté ce soir puisqu'elle propose un focus sur la jeune création, mais vidéo, avec une séance de Terre de Doc. Terre de Doc, ce sont ces projections partout sur le territoire de documentaires de création proposés par Ardèche Images, et donc ce soir à 18h, ce sont 4 films d'étudiants et étudiantes de l'école documentaire tournés sur les territoires Sud-Ardèche en 2025 qui seront projetés. Il y a notamment l'Annonciation, Les Parts du Feu, Tant qu'il y aura des doudous et La Réserve, dit notamment, mais en fait je les cite tous. Des films, des regards qui parlent de ce qui se passe ici. L'entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous. Et pour celles et ceux que le documentaire intéresse, et singulièrement le documentaire qui nourrit la connaissance du Sud-Ardèche, ne manquez pas l'onde curieuse de lundi où nous recevrons Ardèche Images. Toujours pour les Nuits de la Lecture, mais cette fois demain et au château d'Aubenas, en résonance avec l'exposition collective « Je suis verticale, mais » Jeanne Burgard-Goutal, qui est philosophe et spécialiste de l'écoféminisme, viendra présenter ce mouvement, donc l'écoféminisme, les raisons de son émergence et la manière dont l'art peut être envisagé pour se projeter dans l'avenir. Le tout ponctué de lecture de textes, bien sûr, puisqu'on est quand même aux nuits de la lecture. Un très beau rendez-vous proposé par le château et qui est gratuit, tellement beau qu'il risque d'y avoir du monde, donc la réservation est fortement conseillée. La rencontre avec Jeanne Burgard-Goutal, c'est demain, vendredi, de 18h15 à 19h45, au château d'Aubenas. Terre de Doc, Doc de Terre, voire alimentaire, c'est aussi le programme du Festival du film paysan, qui a lieu en Ardèche jusqu'au 25 janvier. Un événement conçu de A à Z par les paysans eux-mêmes et les paysannes, ceux de la Confédération Paysanne. Et ce soir à 20h, rendez-vous à la salle des fêtes de Lussas pour le film documentaire « Sol couvert d'espoir », un film né d'un voyage de 5 mois à travers l'Europe à la rencontre d'agriculteurs et agricultrices qui réinventent leur métier face à l'érosion des sols, aux sécheresses et à l'effondrement de la biodiversité. Comme toujours, vous le savez, dans ce festival, le film est aussi un prétexte à la discussion autour d'un pot paysan qui suit la projection. Donc ça, c'est ce soir à 20h à Lussas, Sol couvert d'espoir, et demain, ce sera à Aubenas avec le film Mon cousin agriculteur, c'est à 20h également. Marine suit son cousin dans les grandes plaines de l'Oise qui tente de combiner l'impossible, c'est-à-dire conserver de bons rendements pour que son exploitation survive, tout en diminuant son impact environnemental. Venez rencontrer les paysans, les paysannes et échanger sur toutes ces questions fondamentales. Donc ce soir à Lussas et demain à Aubenas. Enfin, pour se rapprocher de notre sujet du jour, les contes et légendes rurales d'autrefois, celui qui est devenu presque une légende chez nous, Pierre Conti. Pierre Conti, chef d'une communauté à Chanéac, qui dans les années 70 avait fait 3 victimes pendant sa cavale meurtrière, surnommé le tueur fou de l'Ardèche. Eh bien, le journaliste Jean-François Laville, qui a travaillé pour France Télévisions, viendra présenter son nouveau bouquin, le mystère Conti sur la piste des années 70, à deux moments, donc deux dates à noter. Vendredi, il sera à la Ferme Théâtre à La Blachère pour deux conférences, l'une à 16h et l'autre à 20h30. Et samedi, il sera la matinée de 10h à midi à la librairie du château à Aubenas. Voilà, eux, ils ont mis en musique quelques légendes ancestrales, c'est Blausabella. Ça réveille un peu, hein. Ça donne envie de danser, avec ce petit final, hein. Très bien. Blausabella, The New Jigs, issu de l'album Richer Dust, c'était en 88, ce sont des Anglais qui jouent de la musique notamment du sud du Massif Central, et c'est le choix de l'un de nos deux invités, Patrice Ray, créateur du Musée des Croyances Populaires à Monastier-sur-Gazeille. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Merci d'être là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi ce choix de musique ?
Pourquoi ce choix de musique ? Parce que c'est une musique effectivement qui est de très très forte inspiration locale, et c'est aussi une musique, c'est aussi un groupe qui m'a accompagné, que j'ai vu plusieurs fois en concert, et qui m'a toujours accompagné dans mon travail.
Travail donc notamment collectage, on va en parler, collectage des contes et légendes, ici sur le plateau Ardéchois. Avec vous, Claudine, enfin avec vous en tout cas ici, dans les studios, Claudine Gindreau qui est, on dit responsable, Claudine,
oui.
De la bibliothèque de Genestel. Bonjour Claudine.
Bonjour, bonjour Patrice.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux ici pour parler de veillade, puisque samedi, la bibliothèque de Genestel ressuscite pour les nuits de la lecture les veillades, donc ces veillées d'hiver qu'on passait jadis en Ardèche ou sur le plateau à se raconter des histoires. Puisque vous serez, enfin tu seras Patrice, à 15h, donc à la médiathèque de Genestel. Enfin à la médiathèque, à la bibliothèque de Genestel.
Oui, c'est plutôt une bibliothèque.
C'est une bibliothèque et qui fait partie du réseau, c'est ça, du réseau des médiathèques et bibliothèques intercommunales du bassin d'Aubenas.
Il y en a
19.
Il y en a 19, oui.
Mais Genestel, c'est une petite bibliothèque.
C'est une petite bibliothèque, mais qui existe depuis plus de 30 ans. Alors, si le local est un petit peu petit, à l'occasion, nous pouvons faire nos animations dans la salle des fêtes.
Petite bibliothèque, mais grandes ambitions. Et puis,
Oui, nous avons 52 inscrits, 11 bénévoles. Cette bibliothèque a toujours été un lieu d'accueil. Avec ouverte 4 heures par semaine, 2 heures le lundi, 2 heures le mercredi, avec café-gâteau. Nous avons une grande table pour recevoir les personnes qui viennent nous voir, donc pour partager les lectures, boire le café.
C'est ça qui compte en fait, c'est un lieu de convivialité, un lieu de vie autour certes du livre, de la lecture, mais pas uniquement. Et donc c'est une bibliothèque qui fonctionne uniquement avec des bénévoles.
Uniquement, oui.
Mais depuis juillet, c'est ça, vous avez rejoint ce réseau.
Oui, voilà. Le réseau de la médiathèque qui nous donne beaucoup, beaucoup d'énergie. On peut partager nos budgets, nos idées. On a un soutien de la communauté de communes, de la médiathèque d'Aubenas. Ça nous a un petit peu redynamisé, je dirais.
Et donc là, pour ces nuits de la lecture, Claudine, tu as souhaité proposer cette... Alors, ce sera une conférence et puis un moment autour des contes et légendes, autour de la veillade. Pourquoi ?
Eh bien, le thème des nuits de la lecture, c'était la ville et la campagne. Et la campagne, pour moi, oui, c'était le thème de cette année. La campagne, pour moi, c'est la ville, puisque je suis née à Bise, donc dans ce petit hameau de Genestel. Et quand j'étais enfant, j'ai connu les veillées, pas de télévision, et où ils se racontaient des histoires un petit peu effrayantes, quelquefois, pour les enfants. Et quand j'ai entendu parler de Patrice Rey et de ce qu'il proposait, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être bien pour les nuits de la lecture cette année. Voilà.
Et oui, alors, Patrice, on parle de veillade. Comment ça se passait, les veillades, justement, alors, dont Claudine parle ?
Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce sont vraiment ces veillades, les veillées paysannes qui étaient très ritualisées dans la montagne. Beaucoup de gens ont connu la veillée il y a peu de temps où on jouait aux cartes, etc. Mais il y a, on va dire, jusque dans les années 20-30, c'est-à-dire il y a presque 100 ans maintenant, des veillées comme ça qui étaient vraiment très ritualisées et qui étaient un moment où se transmettaient tout un tas d'anciens récits, d'anciennes histoires, où se mêlaient à la fois un catholicisme profond et d'anciennes superstitions païennes qui s'y mélangeaient sans poser aucun problème. Donc ça crée des histoires avec Dieu, le diable, les anges, mais aussi le loup-garou, les revenants, les lutins, etc. Où, comme je disais, tout se mêlait allègrement sans poser de problème. Et ces soirées étaient, comme je disais, ritualisées, elles se passaient de la même façon, parce qu'il existait un lien social qui était très fort, qui était la messe le dimanche matin. Et pendant les hivers, c'était le seul moment où on pouvait voir les autres. Quand j'en parle à des enfants et que je leur dis que jusqu'à la jeunesse de mes parents, il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de télévision, bien sûr, pas d'internet, etc. Et que les gens passaient l'hiver dans la ferme, dans un espèce de silence. Ils n'y croyaient pas trop. Et après la messe, tout le monde allait à la chapelle d'en face, hein, qui était le café. Et c'était là où se faisait tout le lien social. C'est la seule occasion de la semaine où on pouvait échanger, communiquer. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait un homme qui pouvait dire à tous les autres, si tel soir dans la semaine, vous voyez une lumière devant ma ferme, c'est qu'il y a la veillade. Et le soir dit, tout le monde surveillait la montagne en direction de la ferme de celui qui avait fait l'annonce pour voir si effectivement il avait bien mis une lampe sur le bord de sa fenêtre pour attirer les autres. Et chaque famille se mettait en route après avoir pris une bûche, un morceau de fagot pour participer au feu chez l'autre. Et on affrontait deux peurs, hein, la peur de l'obscurité avec toutes les superstitions incroyables et aussi la peur de la burle, hein, la peur de la tempête de neige qui pouvait tuer. Et donc, on se mettait en route au coucher du soleil, on était à la ferme pour la veillade vers 18h, et on racontait ces histoires tant qu'on n'entendait pas les 12 coups de nuit. Donc, vous voyez, ça durait à peu près 6 heures. Et je vais essayer de faire un petit peu moins long à Genestel. Et c'est des gens qui avaient beaucoup de répertoire. Et c'était une littérature orale qui était vraiment très importante par sa quantité et aussi régulièrement par sa qualité.
Alors on parle, il y a plusieurs types d'histoires, notamment on parle de contes et légendes. Quelle différence y a-t-il entre les contes et les légendes?
Alors c'est très simple, le conte c'est ce qui est dit, hein, qui donne les verbes raconter par exemple, alors que la légende est ce qui est lu. Une légende par exemple, quand on veut comprendre une carte, on va lire la légende de la carte. Et ce qui fait que les contes et les légendes étaient bien souvent exactement les mêmes histoires, soit dans un livre, soit uniquement transmises de façon orale, de génération en génération, avec souvent des moyens mnémotechniques pour qu'elles ne soient jamais transformées ou adaptées par la génération suivante. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, des contes avec un refrain. Que tout le monde reprend. C'est comme une chanson, ça ne change jamais. Ou alors des contes avec la dernière syllabe de chaque phrase était la même que la première syllabe de la phrase suivante, où toute l'histoire se déroule ainsi, sans jamais être modifiée. Et la principale différence, eh bien, c'est que comme les contes étaient destinés donc à la très grande majorité des gens, hein, au peuple, ils avaient une morale. Le conte a une morale alors que la légende n'en a pas, vu qu'elle était destinée par le livre aux rares qui maîtrisaient la lecture et qui étaient les puissants et qui apparemment n'avaient pas besoin de morale.
Et ça non plus, ça ne change pas. Ils n'en ont pas besoin. Est-ce qu'on sait, Patrice, justement, comment naissent, par exemple, comment naissent les légendes?
Alors il y a beaucoup de ces récits qui puisent leurs racines dans l'Antiquité. Hein, on a beaucoup d'histoires avec des animaux anthropomorphiques qui vont donner au Moyen-Âge le roman de renard, par exemple. Et moi, il m'est arrivé d'enregistrer à la ferme des anciens qui racontaient ces mêmes histoires en ignorant que quelqu'un l'avait mis dans un livre au XIIe siècle. Et vous voyez, avec ces histoires d'animaux anthropomorphiques qui datent de cultes, peut-être même préhistoriques à la base, il y a aussi beaucoup d'histoires transformées de mythologie grecque ou latine, par exemple, avec des dragons, des choses comme ça. C'est... Et enfin, des histoires transformées, adaptées également de la Bible, où on a des histoires de formation de lacs, de villes englouties, etc., qui vont évoquer la disparition de Sodome et Gomorre, ou des histoires d'ermites qui vont évoquer Saint Antoine, par exemple, avec ses visions dans sa grotte. Et ces histoires vont être localisées dans notre secteur, parce qu'il suffit qu'il y ait un lieu qui évoque ce qui est décrit en fait dans le récit, tel lac, telle montagne, telle grotte, telle forêt, pour qu'on dise, regardez, c'est ici que ça s'est passé.
Mmh. Excusez-moi, j'allais t'interrompre, mais c'est parce que pour préparer l'émission, tu m'as dit que les lutins venaient de Neptune, et ce que j'ai partagé avec Claudine hier, et il faut savoir, enfin, dis-nous pourquoi, comment les lutins viennent de Neptune.
Alors, parce que la langue se transforme, il y a une évolution dans la langue française, que les lutins, par exemple, au XVe siècle, étaient des lutons, qui sont dérivés des Nutons, et ces Nutons étaient les fils de Neptune. Neptune était le dieu de la mer, des rivages, mais aussi le dieu des grottes, où on imaginait que son royaume continuait par les rivières souterraines dans les grottes, et les lutins étant les habitants des grottes, ces anciens fils de Neptune, vous voyez, alors qu'aujourd'hui, eh bien, on ne voit plus du tout ce lien, en fait.
Mmh. On voit plus du tout ce lien. C'est comme, il y a toujours donc dans la manière dont se transmettent les histoires, il y a des transformations. En tout cas, il y avait les francs-maçons. Est-ce que tu peux nous dire ça aussi, les francs?
Côté Haute-Loire, il y a une histoire, par exemple, d'un bossu qui justement participe à la veillade. Et ce qui est intéressant, c'est que les dernières histoires qu'on raconte, les toutes dernières histoires avant minuit, avant que chacun doive traverser la forêt pour rentrer chez soi, sont des histoires terribles à ceux qui arrivent à ceux qui traversent la forêt la nuit. Vous voyez, histoire de leur mettre un dernier petit coup de pression. Et l'histoire de ce bossu, il rencontre dans une clairière les flamaçons, en un seul mot, en train de danser. Et il va lui arriver tout un tas d'histoires que je raconterai, bien sûr, à Genestel. Et en fait, ces flamaçons, dans cette histoire, sont à la fois des lutins et des petits diables. Et ils s'appellent comme ça tout simplement parce que les prêtres disaient à leurs paroissiens « Méfiez-vous des francs-maçons ». Et ignorant absolument ce que pouvait être un franc-maçon, les gens de la montagne les avaient assimilés à ces petits diables de leurs récits ancestraux.
Les figures du mal, justement. Est-ce que tu peux nous dire à quoi tient une bonne histoire? Une histoire qui va continuer de se transmettre comme ça? Quels sont les ingrédients qui sont essentiels?
Alors, les ingrédients qui sont essentiels, ça va être, bien sûr, le rythme de l'histoire. Ça va être les personnages, ça va être, comme toute bonne histoire, dans tous les domaines, en fait. Hein, il y avait beaucoup d'histoires qui étaient très liées à la vie, en fait, que ces gens avaient. On va retrouver des littératures orales différentes chez les gens qui vivent dans les plaines ou chez les gens qui vivent de la mer. Que toutes ces histoires sont liées à un paysage, à un climat, à un type d'agriculture, etc. Et celles qui vont rester sont celles qui vont parler à tout le monde, en fait, qui vont évoquer quelque chose qui va plus loin, qui va évoquer les sentiments, qui va évoquer les trois grandes questions que sont la vie, l'amour et la mort.
Une question sur la manière dont tu as collecté toutes ces histoires pendant très longtemps.
Oui, c'est moi j'avais commencé quand j'avais 17 ans, donc il y a plus de 35 ans, donc voilà. Et c'était une époque où il y avait encore régulièrement des gens très âgés qui n'étaient pas la majorité, mais qui étaient toujours là, pour qui toutes ces histoires, c'était vrai, en fait. C'était la réalité, c'était une explication du monde. Et qui était très logique, hein. Le bien, le mal, Dieu crée, le diable détruit, la maladie, les accidents sont dus aux sorciers qui imitent le diable. Et donc, pour contrer ça, il faut utiliser les plantes dans la nature qui ont été, qui sont la création divine, en fait. Voilà. Que tout est extrêmement logique. Mais c'était très difficile d'interroger ces gens parce qu'il fallait une très grande confiance. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a été long, ça a été très dur parce que ces gens avaient peur qu'on se moque d'eux. On se moquait d'eux parce qu'ils parlaient occitan. On se moquait d'eux parce qu'ils étaient parfois pauvres. Moi, dans le village où je vis, jusqu'à l'enfance de mes parents, si un enfant disait un mot en occitan à l'école, on lui attachait une corde autour du cou. À cette corde pendait une grosse bûche sur laquelle il y avait écrit « Je parle pas toi ». Et vous voyez, c'était des gens qui étaient dans la crainte. Et aujourd'hui, les très rares personnes qui sont centenaires et qui ont toute leur tête, qui sont encore capables de se souvenir de ces récits, eh bien, ils se rappellent de ce qu'ils entendaient quand ils avaient moins de 10 ans. Donc, les sources se tarissent beaucoup. Ces gens connaissent moins de légendes, de récits, de choses comme ça. Mais par contre, ils en parlent avec beaucoup plus de facilité, parce qu'ils ne sont plus des acteurs directs de cette culture.
Ils ont pris un peu leur distance avec, donc plus de honte à avoir. C'est ça, ils transmettent.
Voilà, complètement.
Ce que tu disais aussi, c'est que tu es toujours en train de collecter et que peut-être il y a encore des histoires ici, côté Ardèche d'ailleurs, que tu vas collecter.
Oui, c'est sur les plateaux ardéchois, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'anciennes légendes, d'anciens récits, et avec des histoires de revenants, avec des histoires aussi de pacte avec le diable. Il y a des histoires d'apparition du diable, la Chartreuse de Bonnefoy, par exemple, avec la légende du Chartreux chasseur. Il y a aussi certaines histoires qui sont en Ardèche, mais en lien direct avec le château du monastier sur Gazeille, dans lequel est le musée des croyances populaires, comme l'histoire d'Antoine de Fourchade, donc de Saint-Andéol de Fourchade, qui a trouvé la mort, qui a été tué par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, en défendant le château qui abrite aujourd'hui le monastier, le musée. Et son revenant enterrait l'église de Saint-Andéol. Donc il y a beaucoup, encore beaucoup de choses à illustrer, beaucoup de récits à faire redécouvrir.
C'est passionnant. Patrice, merci beaucoup. Justement, tu as fait la transition. Le musée, donc le musée des croyances populaires à Monastier-sur-Gazeille, que tu as donc créé, il est... Alors là, pour l'instant, il est en hibernation ?
En semi-hibernation, parce que bon, il fait très froid, mais ça reste quand même ouvert pour les groupes sur rendez-vous. Sinon, après, nous avons une saison où c'est ouvert tous les jours, sauf les lundis, pendant 5 mois, donc du 1er mai au 30 septembre.
Et c'est absolument passionnant. Il faut dire quand même que dans ce musée, en fait, toi, tu es aussi artiste, plasticien, dessinateur, et tu as illustré, que ce soit en peinture ou par des figurines, en fait, beaucoup de ces contes et légendes.
Voilà. Alors, j'ai jamais appris à peindre ou à sculpter, donc je fais du mieux que je peux. Mais c'est vrai que maintenant, petit à petit, avec le temps, il y a plusieurs centaines de tableaux et plusieurs centaines de figurines dans des dioramas qui vont illustrer, en fait, ces contes, qui vont illustrer aussi les croyances, les explications magiques des médecines paysannes, par exemple, les histoires de sorcellerie, évidemment, quoi. Et ce qui permet, dans le musée, à chaque fois, d'avoir des textes très courts pour éviter d'embêter les gens, parce qu'on a tous visité des lieux avec des textes plein les murs, ce qui est toujours insupportable. Et je suis aussi toujours là pour discuter avec les visiteurs ou proposer des visites comptées. Voilà, après, j'ai pas réponse à tout, mais je discute avec plaisir.
Super, merci beaucoup Patrice. Ouais, ces tableaux qui ressemblent à ceux, c'est ce que je t'ai dit en préparant l'émission, à ceux de Gérard Latier. Mais pour Gérard Latier, par contre, absolument pas. Il est unique. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, c'est voilà, très très chouette. Ouais. Merci, merci beaucoup, Patrice. Donc tu seras.
Merci pour l'invitation. C'était avec plaisir.
Tu seras samedi donc à Genestel, donc à partir de 15h à la salle polyvalente au hameau de Bise, donc pour les nuits de la lecture. Et alors vous avez fait le programme très bien, Claudine, puisque pour permettre au public justement de donc participer à cette conférence à 15h, puis ensuite d'aller à Saint-Joseph-des-Bancs, c'est ça?
Oui.
Pour continuer le programme, puisque à Saint-Joseph-des-Bancs, à partir de 18h, bah d'ailleurs c'est ce que nous disait Patrice, hein, à partir de 18h, je ne sais pas si ça va durer jusqu'à minuit,
ça.
On ne sait pas, mais il y a une veillée avec des témoignages croisés, c'est ça qui est organisé.
Tout à fait.
Un mot sur le reste du programme, on est déjà hors temps. Il y a ce soir, donc j'en ai parlé à la médiathèque d'Aubenas, cette projection Terre de Doc. Aussi à Mercuée, il y a une lecture théâtralisée avec la fable Le Rat des Villes et Le Rat des Champs, des kemishibai, c'est des ateliers dessin et découpage, et puis petite galette. Donc ça c'est ce soir. Demain ce sera à Saint-Cernin avec des lectures. Samedi, donc on en a parlé, super programme, veillée, veillade à Genestel à 15h et à Saint-Joseph-des-Bancs à 18h. À 15h, ce sera avec Patrice, oui, Claudine.
Et à Entrailles, dimanche également, avec aussi une conteuse. Ça commence.
Ah, j'ai pas les infos, c'est pas sur le papier.
Oui, parce que ça a été rajouté après.
Ah.
Donc ça commence dès 17h, tout public pour les enfants, et puis à 19h un repas partagé, et à 20h30 une veillée pour les grandes oreilles. Voilà, venez écouter les belles histoires avec la conteuse Charlotte Irvoas.
Donc ça c'est dimanche.
Ça c'est dimanche 25 janvier à Entrailles.
Merci beaucoup, et samedi à Aubenas, mais vous retrouverez ça, toutes les infos, notamment sur leur site, de 16h et 20h, il y a plein de choses donc pour ces nuits de la lecture. Merci beaucoup, Claudine, d'être venue.
Merci.
Ici, à Fréquence 7, nous parler donc de ces nuits de la lecture, ces veillades. Merci à toi, Sylvain, pour la réalisation de cette émission. Et merci, auditrices, auditeurs, vous êtes plus de 1 200 000 à nous écouter tous les jours. Bravo, bravo à vous, vous avez bien raison. À 15h, vous retrouverez le Télex. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. Et à 20h, c'est la tête dans le sillon, l'émission vinyle de Fréquence 7. C'est la rediff. Et la rediff de ce soir est bien inspirée, car les trois acolytes de l'émission dégainent leur galette sur le thème de la pluie. Ah. Et au passage, une annonce. Mardi 27, donc le prochain apéro musical à la médiathèque d'Aubenas, dont Fréquence 7 est partenaire, sera consacré au vinyle. Nico, la tête dans le sillon, y sera, mais l'idée c'est que tout le monde puisse amener ses vinyles et partager ses coups de cœur. Vous y êtes donc bienvenus, ce sera mardi. Et nous, on se retrouve demain, mais pour parler cinéma. Ciao.